franceinter.fr.
Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire du scandale OM-VA ou VAOM. Parler de cette affaire, c'est parler de football, de deux équipes. D'un côté Valenciennes, le petit chose du championnat dans les années 90, de l'autre Marseille, l'ogre, à la même époque. Mais se souvenir de l'affaire OM-VA, c'est aussi se rappeler une triste soirée durant laquelle l'argent l'a emporté sur le sport. Une soirée qui a fait vaciller le football français et ses supporters derrière le spectre de la corruption. L'épilogue judiciaire le confirmera, oui, oui, comme dans une république bananière, on achète ce soir-là un match de foot et des joueurs. C'est une histoire où se croisent hommes d'affaires, dirigeants de clubs, joueurs, élus de la nation, tous acteurs d'un scénario pathétique, parfois vulgaire, souvent cynique. Une histoire où l'on enterre dans un jardin quelques liasses de billets comme des œufs de Pâques, au son des cloches du vieux beffroi de Béthune. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment le goût de la victoire a-t-il été plus fort que celui de la morale sportive? Comment la trame judiciaire va-t-elle petit à petit remonter la filière et finir par mettre à terre l'architecte de la manigance? Notre invité aujourd'hui, c'est Gilbert Collard, qui était l'avocat de Jean-Pierre Bernès, directeur général de l'OM à l'époque des faits. Il est avec nous aujourd'hui, escalité. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius et Stéphane Ronxin, à la technique aujourd'hui, Vincent Godard.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Je crois que dans cette affaire, tout le monde, qu'on aime le football, qu'on n'aime pas le football, qu'on aime tapis ou qu'on n'aime pas tapis, qu'on soit juriste ou pas, tout le monde a une envie de savoir ce qui s'est passé.
C'est vrai que j'ai apporté des accusations, elles sont vraies.
Effectivement, il a reconnu avoir reçu de l'argent pour lever le pied dans le match OM-USVR.
Cette espèce de cirque apparent pour faire une association médiatico-judiciaire de telle sorte que on continue la chasse à cour.
Moi, on en parlerait tout à l'heure.
Gâte.
Le 20 mai 1993, à la mi-temps du match Valenciennes-OM, un joueur de Valenciennes se confie à son entraîneur. Il lui donne une information incroyable. On a essayé de l'acheter, lui et deux de ses coéquipiers, pour qu'ils lèvent le pied durant le match contre Marseille. Parmi les commentateurs présents dans le stade, tous restent dubitatifs. Personne ne veut croire que l'Olympique de Marseille, meilleure équipe de championnat, qui va jouer dans quelques jours la finale de la prestigieuse Ligue des Champions, ait pu se livrer à de telles pratiques. Et surtout, pourquoi? Pourquoi employer de telles méthodes face à une équipe beaucoup plus faible? Pour le sens commun, tout cela n'a aucun sens. Mais à la Ligue nationale de football, on ne veut pas laisser planer le doute. L'accusation est trop grave. D'ailleurs, son président, Noël Le Graët, lancera les premières investigations dans les jours qui suivront la victoire de l'OM en Coupe d'Europe. Démarche efficace, qui aboutira au dépôt d'une plainte et qui déclenchera le début d'un processus judiciaire rocambolesque à souhait et illustré par un bras de fer mémorable entre deux hommes. Le procureur de la République de Valenciennes, Éric de Montgolfier, l'homme du respect de la loi, et le très médiatique président de l'OM, Bernard Tapie, l'homme du respect de l'argent. Ces démêlés aboutiront à un procès deux ans plus tard, un procès durant lequel la main de la justice sera lourde et tranchera en faveur du sport.
Je suis trop content, on est champion d'Europe, c'est la première fois en France, et on a montré à la France qu'on était les plus forts. Milan, c'est fini, ça n'existe plus, c'est rayé de la carte, maintenant c'est Marseille, le centre de l'Europe, c'est Marseille.
Quand vous avez vu le but, qu'est-ce que vous avez pensé?
J'ai pas réfléchi, j'ai sauté, c'est tout.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Je vais faire la fête, je vais me jeter dans le vieux port, je vais nager dans la Méditerranée parce que c'est la plus belle mer du monde.
On a gagné la coupe, on a gagné, ils l'ont gagné cette putain de coupe. Ça fait 4 ans, 5 ans, 6 ans que j'en vis. Superbe.
Nous sommes le 26 mai 1993. L'équipe de l'Olympique de Marseille est sur le toit de l'Europe. Elle vient de remporter la prestigieuse Ligue des Champions 1-0 face au Milan AC. C'est la première fois, oui la première fois qu'un club français s'impose dans cette compétition qui réunit chaque année les meilleurs clubs européens. Alors bien sûr, les habitants de Marseille, habitués au foot, le célébrant volontiers comme une religion, descendent par milliers dans la rue pour y instaurer un joyeux vacarme. Klaxon, cris de joie, chants, musique, la nuit est animée sur la Canebière. Au même moment, à Munich, dans le stade où vient de se dérouler la finale, le président de l'OM, Bernard Tapie, descend sur la pelouse pour fêter la victoire avec ses joueurs. Alors on le retrouve ici et là, dans les bras de Basile Boli, le buteur de la finale, puis embrassant Didier Deschamps. Il parade Bernard Tapie, et c'est bien légitime. Le club dont il est le président vient de décrocher le Graal, la Coupe d'Europe, aux dépens du Milan AC, un club italien. Pensez donc, l'heure est à la fête, Didier Deschamps, milieu de terrain de l'OM, savoure.
Je crois que de lever le premier la Coupe d'Europe en tant que joueur français, c'est rentrer dans la légende. Mais enfin, je m'arrête pas à ça, mais je sais que j'ai eu un privilège sans égal ce soir. J'ai du mal à réaliser, mais bon, je partage la joie avec mes compagnons. C'est vrai qu'en étant capitaine, c'est encore une joie un peu individuelle. Mais bon, je crois que ce soir, c'est tout un collectif qu'il faut englober dans cette victoire.
La voilà, la victoire, cette reconnaissance que Bernard Tapie cherche depuis son entrée dans le monde du football. Et c'est pour elle, d'ailleurs, qu'en avril 1986, il rachète l'Olympique de Marseille, alors club de seconde zone, au classement du championnat. Il l'achète pour un franc symbolique, méthode qu'il a éprouvée auparavant dans le cyclisme et dans le cynisme, sur un principe très simple, du moins sur le papier, construire une équipe et gagner des titres. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Tapie, l'OM déniche de nouveaux talents, de nombreux talents, comme Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Abedi Pelé, Eric Cantona, Didier Deschamps. Avec ces joueurs-là, et en l'espace de quelques années, l'OM devient le meilleur club du championnat de France en remportant 4 titres de champion consécutifs de 1989 à 1992. Marseille, intouchable sur le terrain. Marseille, the place to be, dans les tribunes. Oui, c'est là qu'il faut se montrer, et c'est bien là qu'on retrouve à chaque match important le banc et l'arrière-ban du gotha politique, économique, sportif, bref, tout ce qui compte dans le pays. Aussi, lorsque, quelques jours plus tôt, à la mi-temps du match qui oppose les joueurs marseillais à la modeste équipe de Valenciennes, un joueur valenciennois inconnu du grand public, Jacques Glasman, accuse les dirigeants de l'OM d'avoir tenté de l'acheter, lui, et deux de ses coéquipiers, pour qu'il lève le pied durant la rencontre. Personne ne semble porter crédit à ces déclarations. Personne, et forcément. Parce que ce soir-là, le 20 mai 93, au stade Nungesser de Valenciennes, on a autre chose à penser. Le public est là, fidèle et connaisseur. C'est un match de la 36e journée du championnat de France de première division entre l'Olympique de Marseille et le club local, l'US Valenciennes Anzin. Une rencontre déséquilibrée, avec d'un côté la grosse écurie marseillaise, venue ce soir assurer son 5e titre consécutif de champion de France, et de l'autre de modestes joueurs luttant pour éviter la relégation en 2e division. Ce que les spectateurs ne savent pas encore, c'est qu'avant le match, Jacques Glasman a confié à son entraîneur, Boro Primorac, qu'il a été contacté par téléphone par un joueur de l'OM, Jean-Marc Edli, et par le numéro 3 du club phocéen, Jean-Pierre Bernès, la veille, pour que lui et deux de ses coéquipiers, Christophe Robert et Jorge Buruchaga, lèvent le pied durant la rencontre. Le tout en échange d'une somme d'argent et l'assurance aussi de jouer dans un club en première division l'an prochain. Et c'est donc à la mi-temps du match que Jacques Glasman se soulage, en quelque sorte. Car il ne peut plus assumer cette situation infernale. Revenir sur le terrain en sachant que les dés sont pipés et que les spectateurs qui ont payé leur place sont bernés, non, ça c'est pas possible. Alors courageusement, il dévoile tout devant la caméra. C'est un choc, c'est un scénario incroyable. Et le lendemain, Glasman réaffirme ses accusations, cette fois sur l'antenne de France Inter.
La 36e journée du championnat de France de football de première division riche en polémiques. En match avancé hier soir, Marseille a battu Valenciennes 1-0. L'OM fait ainsi un pas de plus vers un 5e titre consécutif de champion de France. Un résultat presque anecdotique par rapport aux accusations portées par l'un des joueurs de Valenciennes. Le défenseur Jacques Glasman accuse ni plus ni moins Jean-Pierre Bernès, manager de l'OM, de lui avoir fait des propositions indécentes. En termes plus clairs, selon le joueur de Valenciennes, Jean-Pierre Bernès lui a demandé de contribuer à assurer la victoire de Marseille en laissant filer le match. Jacques Glasman répond à Pierre-Louis Castelli.
On a déposé des réserves et je vais attendre de discuter avec mes dirigeants. C'est vrai que j'ai apporté des accusations, elles sont vraies. Je suis un garçon honnête, maintenant c'est le petit pousset contre l'ogre et puis c'est tout. Maintenant, On verra ça. Ça s'est fait par téléphone. Il y aura pas de preuves. C'est sûr qu'il y aura pas de preuves. Comme je vous dis, c'est la parole d'un joueur contre un président qui est Monsieur Tapie ou Monsieur Bernès et qui représente tout l'Olympique de Marseille. Maintenant, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire.
Les dirigeants valenciennois, eux, foncent dans les vestiaires pour voir l'arbitre et mettre des réserves, doux euphémisme, sur la validité de la rencontre. On le ferait à moins. Les dirigeants de l'OM, Bernard Tapie en tête, eux, crient à la fabulation. Rien n'y fait, Jacques Glasman persiste et signe cette victoire de Marseille 1-0. C'est de la pure tricherie doublée de corruption. Seulement voilà, à quelques jours de la finale de la Coupe d'Europe, personne ne veut croire les accusations venant d'un joueur moyen en fin de carrière et qui évolue dans un club moyen. Non mais alors, de quel droit vient-il gâcher la fête, celui-là ? Parmi les rares personnes qui vont prendre très au sérieux les déclarations de Jacques Glasman, il y a Noël Le Graët, le président de la Ligue nationale de football, chargé de gérer et de contrôler les clubs. Noël Le Graët est un homme attaché à l'éthique et aux valeurs du sport. Or, voilà plusieurs années que circulent en France des rumeurs sur des matchs, disons, arrangés. Pour autant, face à l'enjeu que représente une victoire d'un club français en Ligue des Champions, Noël Le Graët va tempérer son action et attendre que l'euphorie de la finale soit retombée pour lancer sa première banderille. Le lendemain de la victoire de l'OM à Munich, il charge deux membres de la commission juridique de la Ligue de lancer une enquête préliminaire et fait auditionner les principaux protagonistes de l'affaire, tant du côté de Valenciennes, avec les joueurs, Jacques Glasman, Jorge Burruchaga et Christophe Robert, que du côté marseillais, avec Jacques Elly et Jean-Pierre Bernès, le numéro 3 de l'OM. À la lecture du rapport que les deux experts vont lui remettre, Noël Le Graët n'a plus de doute. La tentative de corruption qu'a révélé Jacques Glasman est crédible, donc grave. Sans hésiter, Noël Le Graët dépose plainte contre X le 4 juin.
Il y a un certain nombre de dirigeants qui gèrent, un très grand nombre, qui gèrent leur club avec beaucoup de cœur, beaucoup de talent. Puis certains qui ont tellement envie de gagner qu'ils dépassent peut-être les limites de l'envie de gagner. Alors c'est ceux-là qui nous gênent, mais c'est vraiment pas une affaire qui mettra en cause ni notre championnat, ni le football. Vous savez, on jouera toujours au foot et il se porte de mieux en mieux en France. On veut un championnat d'une grande rigueur financière, et ça nous a commencé à gagner. Et puis nous voulons un championnat d'une grande rigueur morale, ça se fait pas aussi rapidement. C'est pas seulement une sanction qui fera que notre championnat se portera mieux. Je crois que c'est une prise de conscience des uns et des autres. C'est tellement négatif que ça peut prendre quelques jours, quelques mois, c'est plus probable.
Pour le moment, l'affaire est dans les mains de la justice. La Ligue nationale a pris une position de s'adresser à la justice. La fédération est tout à fait en harmonie avec la Ligue nationale. Il faut maintenant attendre que la justice aille jusqu'au bout.
Dès lors, l'enquête va prendre une tournure judiciaire très vive avec l'entrée en scène du procureur Éric de Montgolfier. Un magistrat toujours courtois, mais dont les mots peuvent être tranchants comme des lames, souvent teintées d'ironie. L'homme est souvent sarcastique, toujours intraitable. Il n'est en poste que depuis quelques mois à Valenciennes, mais il a derrière lui cette solide réputation de ténacité dans les affaires de corruption. Bref, il jouit de la meilleure des réputations pour un représentant de la justice, incorruptible. Quelques jours plus tard, le 23 juin, c'est justement l'un des premiers intéressés dans cette affaire, le président de l'OM, Bernard Tapie, qui va demander à rencontrer le procureur. De cette rencontre, il ne ressort pas grand-chose. Tapie fait son tapis, sans doute pour tester et voir ce que le procureur, fraîchement arrivé dans l'enquête, a dans le ventre. Ce qui ne va pas émouvoir le moindre du monde, Éric de Montgolfier, qui avouera plus tard avoir accepté cette rencontre par simple curiosité sociologique. Toujours est-il que lorsque le président de l'OM se rend dans le bureau du magistrat, il ne sait pas que quelques heures plus tôt, le joueur de Valenciennes, Christophe Robert, a été placé en garde à vue et qu'il n'a pas tardé à craquer face aux questions des policiers, comme l'explique Éric de Montgolfier aux journalistes.
Effectivement, il a reconnu avoir reçu de l'argent pour lever le pied dans le match OM-USVR. Sur les indications de Christophe Robert, ces 250 000 francs, qui seraient le prix de la corruption, ont été retrouvés. C'était une somme en liquide, en petite coupure. Il faut bien sûr se préoccuper de qui les a corrompus, donc on va s'attaquer maintenant aux corrupteurs, et je crois que le juge est tout à fait décidé à ouvrir ce second tiroir. Il est bien clair que c'est vers Marseille que nos regards vont se tourner.
Face à la détermination des policiers venus spécialement de Lille pour traiter l'affaire, Christophe Robert passe à table et raconte, détaille à l'appui, l'épisode mystérieux qui a précédé le match.
Deux jours avant le match, un copain marseillais m'appelle à mon domicile. La voix, je la reconnais tout de suite. C'est Jean-Marc Edli au téléphone, avec lequel j'ai été très proche au centre de formation à Nantes. Nous parlons, puis il me demande de rassembler le lendemain, veille du match, Glasman et Burruchaga, pour nous dire quelque chose qu'il me dit de très important. À ce moment-là, il ne me dit rien, mais il me dit que s'il ne le fait pas, il risque de graves ennuis à l'OM.
Mais sur la suite de l'histoire, Jacques Glasman et Christophe Robert divergent un peu. Pour le premier, la proposition du joueur marseillais a provoqué des échanges houleux, puis tous se sont promis de garder le secret, d'oublier cette conversation. À l'inverse, Christophe Robert soutient qu'après le coup de fil qu'ils ont eu tous trois avec Jean-Marc Edley, le joueur de Marseille, ils sont immédiatement tombés d'accord pour accepter l'offre et lever le pied le lendemain sur le terrain. Seule certitude, quelques heures après la conversation, le soir même, la femme de Christophe Robert rencontre Jean-Marc Edley sur le parking d'un hôtel. Le joueur marseillais lui remet une enveloppe, disons, bien remplie.
Moi, mon nom, c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit. Pour plaire au monde et à n'importe qui. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force, que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril. Me donner un peu d'air, c'est clair. C'est clair, j'ai rendu à mes amplis. Pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférez les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, c'est clair. Allonge du cash pour se moquer. Autant que je sache, c'est une bonne thérapie. On sort les flashs pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport.
Jusqu'à maintenant, le nom de Bernard Tapie n'est pas cité. Seul le numéro 3 de l'OM, Jean-Pierre Bernès, a des raisons de s'inquiéter face à la machine judiciaire qui se met en marche. Et c'est le juge Bernard Béfi qui a été chargé de mener l'instruction, donc l'enquête. Jean-Marc Edley se présente spontanément devant lui le 27 juin 1993. Il ne sera pas déçu du voyage.
D'un côté, il y a eu des affirmations sans cesse différentes. Sans cesse. On a nié, puis on a mis un bémol, puis on a dit oui, et puis après on a découvert que c'était vrai, et on a découvert de l'argent enterré dans un jardin, c'est une technique ancienne. Ça ne peut pas être le fait de l'Olympique de Marseille institutionnel.
Jean-Jacques Edley est alors écroué à Valenciennes. Le 30 juin, au petit matin, les enquêteurs perquisitionnent au siège de l'OM. Bernard Tapie affirme que les dirigeants de Valenciennes lui ont demandé, avant la rencontre, de faire match nul. Tiens donc, c'est de Valenciennes maintenant que vient la corruption. En fait, c'est à Jean-Pierre Bernès que les enquêteurs s'intéressent, celui que les spécialistes de football qualifient fréquemment de bras droit et d'homme à tout faire du président de l'OM. Il se décrit d'ailleurs lui-même comme les yeux et les oreilles de Tapie au sein du club. Car si tentative de corruption il y a dans la chaîne de commandement de l'équipe phocéenne, il y a forcément quelqu'un qui est au courant de la transaction. Quelqu'un qui pourrait sortir, par exemple, 250 000 francs pour les donner à Jean-Marc Edley, qui lui-même les remettrait à la femme de Christophe Robert sur le parking d'un hôtel. Or, les enquêteurs ont en main un dossier de la Ligue nationale de football qui fait référence à une suspension de Bernès pour 6 mois en 1991 suite à des rumeurs de corruption entourant un match contre Bordeaux en octobre 1990. Alors, est-il intervenu directement ou indirectement dans la transaction Bernès ? C'est la conviction du juge Béfi qui le met en examen et en détention provisoire dès le 6 juillet. Ernest restera en prison pendant près de 2 semaines, mais il reste ferme, il n'a rien à dire et de toute façon, il ne parlera pas. Dès lors, il apparaît bien qu'il protège quelqu'un et ce quelqu'un ne peut être que son mentor, Bernard Tapie. Ainsi raisonne le juge à ce moment de l'enquête.
C'est au bout d'une heure, à 15h, que Jean-Pierre Bernès est sorti du palais de justice à bord d'un fourgon. Et c'est par un geste symbolique, d'un poing fermé, que le numéro 3 de l'OM laisse entendre qu'il n'a pas craqué. Conduit directement par une escorte de policiers à la maison d'arrêt des Baumettes, le convoi accompagné de journalistes, de la famille et d'amis ressemblait plus à une course-poursuite dans les rues de Marseille. Dans le même temps, les avocats de Jean-Pierre Bernès ont été reçus par un procureur adjoint pour faire le point sur la situation judiciaire.
Avec son numéro 3 et homme à tout faire derrière les barreaux, Bernard Tapie devient rapidement la cible, le morceau de choix.
Cette espèce de cirque apparent pour faire une association médiatico-judiciaire de telle sorte que on continue la chasse à cour.
Moi, on en parlait tout à l'heure. 4.
Nous sommes en plein cœur de l'été 1993. L'ancien entraîneur de Valenciennes, Boro Primorac, accuse Bernard Tapie de vouloir lui faire porter le chapeau. Et devant le juge Bernard Béfi, Primorac affirme avoir rencontré Tapie en juin dans ses bureaux à Paris. Faux, répond l'intéressé. Ce jour-là, le 17 juin, j'étais avec l'ancien ministre socialiste et maire de Béthune, Jacques Mélic. C'est le journal Le Point qui sort cette information. Et Jacques Mélic confirme, oui, j'étais bien dans le bureau de Bernard Tapie ce jour-là, à 15h. Pourtant, quelques jours plus tard, le témoignage de Jacques Mélic est mis en cause par des témoins qui affirment, au contraire, qu'il était avec eux lors d'une réception à Béthune. Le chauffeur et le secrétaire de Jacques Mélic sont placés en garde à vue. Le président de l'OM, qui qualifie depuis des semaines cette affaire d'histoire de fou, se retrouve sous le feu des projecteurs et de la justice. En effet, le procureur Éric de Montgolfier ouvre, dès le 4 octobre, un deuxième réquisitoire supplétif contre X pour tentative présumée de subornation de témoins, avec en ligne de mire Bernard Tapie lui-même. Plus les semaines passent, plus le témoignage de Jacques Mélic apparaît de plus en plus bancal. Oui, histoire de fou. Et laissez-moi vous confier ces quelques souvenirs. J'étais un jeune reporter au moment des faits, je me souviens de cette histoire à dormir debout. Je me souviens de nous tous, journalistes réunis sur la place centrale de Béthune, face au vieux Beffroi, que nous appelions avec l'insolence de notre jeunesse, le vieux Béfi. Je me souviens de chacun racontant son expérience, l'expérience la plus en vogue du moment. Faire le trajet Paris-Béthune, pied au plancher, presque à tombeau ouvert, pour voir si oui ou non, Mélic avait pu être à Béthune à telle heure et à Paris à telle heure. Sauf à avoir le don d'ubiquité, nous en arrivions tous à la même conclusion, nous, journalistes reporters, ce n'était pas possible. L'affaire Mélic, c'est l'affaire dans l'affaire, croquignolesque et lamentable.
Est-ce que vous avez l'impression que vous faites l'objet d'un complot judiciaire ?
Et vous ?
Non, non, moi, je pose la question, vous, vous répondez. Hein ?
On ne peut pas dire ça comme ça, mais bon, on a pour moi des yeux particuliers. Quand on ne me fait pas de cadeaux, quoi.
Après avoir fait étalage dans les médias de l'acharnement dont il est victime, Bernard Tapie prend alors l'opinion de cour et demande à être mis en examen le plus tôt possible pour pouvoir avoir accès au dossier, s'expliquer sur cette affaire. Mais je vous en prie, monsieur Tapie, ce sera chose faite, le 10 février 1994.
Bernard Tapie mis en examen ce matin pour corruption et subornation de témoins dans le cadre de l'affaire OM Valenciennes. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de quitter la présidence de l'OM avant la mi-avril. Le président de l'Olympique de Marseille, qui a rencontré le juge Béfi pendant une demi-heure au palais de justice de Valenciennes, en est sorti, vous allez l'entendre, un peu agacé.
Il y a des choses beaucoup plus graves.
Oui. Par exemple ?
C'est-à-dire il y a des gens qui souffrent, il y a des misères, il y a des drames dans le monde. Donc relativiser un peu les choses et laisser cette affaire à sa dimension, c'est-à-dire pas très importante.
Après sa mise en examen, Bernard Tapie devra abandonner son poste de président de l'Olympique de Marseille, au moins jusqu'au procès, premier dégât. Le procès, il s'ouvre au mois de mars 95, au palais de justice de Valenciennes. La salle affiche salle comble, journalistes, monde du football, joueurs et dirigeants, mais aussi supporters. Tout le monde attend le dénouement d'une affaire qui agite le pays depuis près de 2 ans. C'est que le football est une chose importante. Et le procès est à l'image de l'enquête, riche en rebondissements et en dramaturgie, toujours teintée de ridicule. Durant l'audience, en effet, le député Jacques Mélic va avouer devant la cour qu'il a menti sur son témoignage, qu'il n'était pas dans le bureau de Bernard Tapie le jour où l'ancien président de l'OM est accusé d'avoir reçu l'ancien entraîneur valenciennois Boro Primorac et que c'est Bernard Tapie lui-même qui lui a demandé de faire ce faux témoignage. L'ancien numéro 3 et ex-directeur des affaires générales de l'OM, Jean-Pierre Bernès, avoue lui aussi. C'est Bernard Tapie, dit-il, qui est l'instigateur de toute cette affaire. Lui, Bernès, ne faisait qu'appliquer les directives. Face au juge ébahi, Tapie dira même « Ok, j'ai menti, mais c'était de bonne foi. Feydeau n'aurait pas dit mieux. » La suite du procès permet au procureur de la République, Éric de Montgolfier, de démontrer à quel point l'ancien président de l'OM est l'homme fort d'un système qui vise la victoire pas seulement sur le terrain, mais avec des enveloppes remplies de billets. Le 15 mai 1995, le couperet tombe. Pour corruption et subornation de témoins, Bernard Tapie est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Le tribunal reconnaît l'ancien président de l'OM coupable et finalement double la mise, car le procureur, Éric de Montgolfier, lui, avait requis 6 mois de prison. L'ancien numéro 3 de l'OM, l'homme à tout faire de Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès, est condamné, lui, à 2 ans de prison avec sursis. Un jugement qui le satisfait, comme il le dit au micro des caméras présentes à la sortie du tribunal.
Je pense avoir adopté la meilleure ligne de défense parce que ça me permet de voir aujourd'hui que ça a payé, parce que si j'avais adopté la même ligne de défense qu'il y a 2 ans, j'aurais eu comme Bernard Tapie dans de prison ferme. La prison c'est dur, Bernard Tapie a toujours dit que c'était facile, il fallait pas que je l'emmerde parce que j'avais fait 1 mois de prison. Donc, je crois qu'aujourd'hui il doit comprendre ce que quand il m'a dit ça, il m'a fait beaucoup de mal.
Abattu, abasourdi, chaos, sans voix, pour la première fois, le fringant Bernard Tapie sort d'un tribunal avec une condamnation à de la prison ferme. Lui, volontiers si bavard, file dans sa voiture sans même s'adresser aux caméras. Quant aux joueurs incriminés dans l'affaire, ils étaient absents lors du verdict et sont condamnés par des peines de prison avec sursis. 1 an pour Jacques Edouli, 6 mois pour Christophe Robert et Jorge Bruchaga et 3 mois pour Marie-Christine Robert, la femme de Christophe. Quant à Jacques Glasman, l'homme par qui le scandale est arrivé, il reçoit 1 franc de dommages et intérêts pour préjudice moral. 15 centimes d'euros pour une fin de carrière. On a vu des parachutes beaucoup plus dorés. Dans cette affaire, ce sont les joueurs qui ont payé le plus lourd tribut. Aucun d'eux ne retrouvera les pelouses de la première division. Ils sont les pestiférés du football. Quant à Bernard Tapie, il sera passé avec le foot de la gloire à la honte. Mais ce qui provoque le plus gros malaise, c'est de voir que pour beaucoup de Français, les victimes, les footballeurs, sont devenus les agresseurs. Mais pourquoi n'ont-ils pas tranquillement ramassé l'argent qu'on leur tendait, hein? Et surtout, pourquoi ont-ils parlé? On s'en fiche complètement de Valenciennes. Non, ce qui est important, c'est Marseille, c'est que Marseille, le club qui représente la France, gagne la Coupe d'Europe. C'est ça aussi le football. Le sport universel le plus suivi sur cette planète, l'un des plus lucratifs également, ce qui lui confère ce visage sulfureux. Il y a tellement d'enjeux financiers, politiques. On a même vu, en Coupe du Monde, un pays, l'Argentine, en acheter un autre, le Pérou. Il fallait que les Argentins gagnent 6-0, ce qui fut fait. La junte militaire à l'époque, en 1978, avait accordé en échange aux autorités de Lima la libération de prisonniers politiques et un effacement partiel de la dette. C'est ça aussi, le football. Et ce n'est pas que le goût des autres, ce fut aussi le nôtre, à Marseille, notamment.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire OMVA, et notre invité, c'est donc Gilbert Collard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous étiez l'avocat de Jean-Pierre Bernès, l'un des protagonistes de cette affaire, au moment de l'affaire, en 93. Bon, vous connaissez aussi maintenant pour vos activités politiques, député du Gard, couleur bleu marine. Nous sommes là pour parler de cette affaire, OMVA.
Oui, on n'est pas là pour parler de politique.
Bon, alors, 23...
Encore que, dans le match, la politique, il y avait sa place.
Ben oui, la preuve.
Un député impliqué, oui. Un ministre aussi, hein. Mélie qui avait été ministre.
Absolument.
Sauf erreur de ma part. Hein.
Alors, 23...
Comme quoi la politique mène à tout.
23 ans après les faits, on n'a pas oublié cette affaire. Pourtant, c'est vrai, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Tapie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas massacre. Bon. Mais on n'a pas oublié cette affaire. Pourquoi elle a, à votre avis, autant marqué cette affaire OMVA?
Bah, d'abord parce qu'elle est rattachée au football, qui est un extraordinaire vecteur médiatique. Ensuite, parce que la distribution cinématographique est énorme. On a en tête d'affiche Bernard Tapie et des personnages secondaires qui se sont greffés, qui sont devenus archétypiques, si je puis me permettre l'expression. Bon, Glaxman qui va faire, qui va faire figure du sacrifié, hein,
oui.
du dévoué. Bernès qui va faire figure du repenti. Un peu même terrorisé par Tapie, de Montgolfier qui va apparaître comme le bourreau de Béthune, hein, en appliquant la loi, et puis à la fin de la prison. Alors tout cela évidemment a provoqué une espèce de dramatisation, hein, qui finalement a eu un effet tout à fait passionnant pour les téléspectateurs. Et pour les spectateurs, hein.
Absolument. Donc on va revenir un peu sur ces personnages. Alors évidemment qu'on va parler de Jean-Pierre Bernès, mais pas seulement. Écoutez, on va commencer par le personnage principal quand même. Quel est votre rôle sur le votre regard, pardon, sur le rôle de Bernard Tapie dans cette affaire? Parce que c'est lui le personnage principal. Si on dit que on est là face à non pas une fiction, parce que c'est une réalité, mais un film, une espèce de pièce de théâtre, il y a un acteur principal, c'est quand même lui.
Non, mais l'affaire n'existe que parce qu'il y a Bernard Tapie. La même affaire avec des présidents de petites provinces reculées n'aurait eu aucun intérêt, ni pour le procureur, ni pour le juge, ni pour les médias. Et puis Bernard Tapie va commettre vraiment toutes les fautes tactiques, psychologiques, imaginables. Je me rappelle que lorsqu'il a rencontré Éric de Montgolfier, il est allé lui faire le cinéma sur le président de la République avec qui il venait de parler. Enfin, l'art de prendre les autres pour des cons, ça marche quand on a affaire à des cons. Mais quand on a affaire à quelqu'un comme de Montgolfier, c'est plutôt maladroit.
C'était l'art de se penser intouchable, en fait.
Alors, c'était voilà, il y avait plusieurs dimensions. La première, l'idée qu'il était intouchable parce que protégé politiquement et puis puissant médiatiquement. Un sentiment d'intouchabilité médiatique qui n'existe pas, parce que du reste, les médias l'ont mordu à la cheville tout de suite, hein, dès qu'il a été un produit de consommation. Et l'idée aussi qu'il était plus malin que tout le monde. Parce qu'il faut quand même pas oublier que pour un match quand même sans grand intérêt, vous l'avez dit...
Oui, d'un point de vue du championnat, ça n'avait aucun intérêt.
Alors moi, il m'a été expliqué que il fallait protéger les joueurs... Et
ça, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que notamment l'équipe de Saint-Etienne avait connu cette peine mésaventure devant Nîmes, tiens, chez vous.
Hein, voilà, chez moi, voilà, absolument.
Et
moi,
pas été sympa du tout, hein, ils en avaient cassé deux.
Voilà. Bon. Alors la crainte qu'avait Bernard Tapie à l'époque...
C'était celle-là.
C'était que les joueurs soient blessés. Et qu'il fallait acheter le match pour éviter des heurts un peu trop violents qui auraient eu des conséquences dans les matchs à venir.
Bon. Et surtout pour la finale. De la
et
Coupe
surtout
d'Europe.
Pour la finale. Mais sinon, quel intérêt? Et puis je sais pas. Mais moi, ce qui m'avait. Alors parlons pas du procès qui lui-même est un.
On en parlera après.
Est un scénario dans le scénario. Hein,
on en parlera après.
Mais c'est la manière dont Bernard Tapie tricotait sa propre histoire de manière à la rendre. Cinématographiquement intéressante, quoi. On avait l'impression que il préférait commettre une bourde plutôt que de ne pas être présent au premier rang dans l'histoire. C'était hallucinant, quoi, de voir à quel point, jusqu'à faire taire son avocat en pleine audience, quoi.
Cela dit, Éric de Montgolfier a probablement raison, c'était quand même à double tranchant, parce que il dit que si ça avait pas été Tapie, dans une affaire comme ça, il n'y aura pas eu une peine aussi lourde, parce qu'il y a eu quand même 2 ans de prison, dont 1 an ferme.
Ah oui, mais parce qu'il a été, je vous dis, il a été d'une maladresse insigne, due à une hypertrophie du moi. Il avait des accès de mégalomanie qui ont forcément heurté le tribunal, qui lui aussi a son ego, caché sous la toque, mais tic-toc, hein, l'ego des magistrats, il a aussi son métronome. Hein. Bon, et à plusieurs reprises, je me disais, là, il va se prendre une pêche, hein, parce que il va un peu trop loin dans l'arrogance, dans l'art consommé de prendre les autres pour des cons. Quoi. Je m'excuse de la trivialité de l'expression, mais on n'en a pas inventé d'autres, et on voyait bien que le président était un peu humilié.
Est-ce qu'il y avait un côté, moi, Bernard Tapie, homme politique, vous, la justice, c'est bien gentil, mais c'est quand même moi d'abord. Quoi. C'est ça, et la justice a été piquée par ça.
Oui, il avait vraiment, il donnait l'impression de ne pas être dans un tribunal. Moi, j'ai été frappé d'un point de vue, entre guillemets, psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, de voir à quel point il était schizophrène. Il ne se rendait même pas compte que c'était un tribunal, pas un studio de télé. Et alors, il jouait, mais avec une suffisance qui exaspérait les magistrats, coupant la parole, intimant son secrétaire. Je vous dis, moi, j'ai en mémoire qu'il a fait taire son avocat. Il a fait taire son avocat, ce qui quand même est énorme. Bon, nous, on a eu des heurts d'une violence inouïe pendant l'audience. Inouïe. Moi, je me rappelle avoir lui avoir dit d'arrêter de me menacer, que c'était pas le genre de mec à me faire peur, quoi. Et de l'avoir dénoncé publiquement. Bon, à ce moment-là, évidemment, ça a eu un effet assez dévastateur sur le tribunal, quoi.
J'imagine. Alors, votre client, Jean-Pierre Bernès, oui. Quand on écoute le récit, on se dit, oulala, j'aimerais pas aimer être à sa place. C'était infernal, non? Compliqué.
Ben, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il avait quand même très peur de Bernard Tapie. Mais pas une peur physique, hein, une peur caractérielle. Moi, il me racontait que Tapie l'appelait à n'importe quelle heure pour faire exécuter des ordres, que si ça n'allait pas comme il voulait, il hurlait, qu'il était capable de l'insulter. Bon, je prends pas parti, hein, je répète ce qui m'avait été dit. Et Bernès finissait par avoir une véritable terreur de Tapie. Il avait une peur infantile.
Dans quel état s'est-il retrouvé, ta psychologique, Jean-Pierre Bernès? Maintenant, ça va, hein, il est
agent joueur,
il va bien, mais quel préjudice moral a-t-il subi avec cette affaire?
Il a été... D'abord, c'est un honnête homme. Et oui. Mais on peut commettre un acte malhonnête.
C'est un honnête homme pris dans une histoire malhonnête,
oui,
c'est ça?
Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens honnêtes pris dans des histoires malhonnêtes parce que faibles et embarqués. Il faut s'arrêter tout de suite. C'est le premier pas qui perd, là. C'est pas le premier pas qui coûte, c'est le premier pas qui perd. Bon. Et avec Tapie, bien sûr, il a été entraîné, quoi. Et puis, il était quelque part fasciné par la dimension gigantesque, théâtrale, politique, de l'homme à qui, quand même, tout réussissait. Et du reste, dans un premier temps, bon, il a quand même défendu Tapie. Ah, il a menti. Il avait même écrit un livre... Je m'en souviendrai toute ma vie, dans lequel, qui était intitulé, je dirais, toute la vérité ou toute ma vérité ou la vérité. Comme quoi, c'est un mot depuis la Pravda dont il faut se méfier. Et où il racontait que personne n'était coupable. Et puis, le jour où le livre allait paraître en librairie, le procès commençait, parce qu'évidemment, il fallait que le livre arrive en même temps que le procès. Et là, patatras, il dit qu'il a toujours menti. Bon, donc le livre n'avait plus aucun intérêt et l'éditeur a été très 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 mécontent, je vous le cache pas.
Alors dans le genre je mens mais je sais pas m'y prendre, il y a monsieur Mélic.
Ça
c'est comme l'affaire dans l'affaire, ça
Mélic,
c'est formidable.
Mélic, c'est l'affaire dans l'affaire, c'est le photocopie de la
cycliste.
Oui. Parce que c'est le Spoutnik, je sais pas quel terme employer, du déplacement. Hein. Il est dans la troisième dimension spatiale. Hein. Il va à une vitesse extraordinaire pour aller d'un point à un autre. Vous l'avez rappelé tout à l'heure.
On a essayé nous-mêmes,
le reporter. Essayé, voilà, oui. Mais on a tous essayé, je vous signale. Hein.
Ah bon, oui. Je savais pas. Je pensais qu'avec les reporters qui avaient le droit.
Mais... Non, mais nous, on a quand même des obligations de vérification juridique parfois. Hein. Et vous savez qu'il s'est fait choper par une photographie, je crois, de mémoire, qui montrait sa montre. Et comme dans les procès contre la mafia, le juge avait fait un agrandissement de la montre. Et on voyait que l'heure ne correspondait pas. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce point. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que pour une affaire, aussi ordinaire, les moyens qui vont être utilisés ont été ceux qu'on aurait déployés pour mettre à terre Lucky Luciano, le patron de la mafia, quoi. L'assassin de la Chiesa, quoi. C'était énorme. Les moyens qui ont été déployés en hommes, en matériel, en temps, ont coûté un argent fou pour une affaire qui maintenant, de toute façon, a son importance puisqu'elle est dans l'histoire.
La preuve.
Et même quand l'historien a raison et que le poète a tort, c'est le poète qui a raison.
Bon, alors, au tribunal, pendant le procès, Monsieur Melick et vous, il se passe quelque chose.
Ah ben, je suis arrivé en le cognant un peu, verbalement bien sûr, à lui faire dire qu'il mentait. Il a admis, ce qui a été du reste un grand moment, quoi. Bon, parce que ça fait partie des dénouements qui passionnent, comme quand on voit un film.
Ça s'appelle un coup de théâtre, d'ailleurs.
Ça s'appelle un coup de théâtre, procès, oui. On peut même dire un climax, hein, parce que tout à ce moment-là, tout se retourne, quoi. Hein, bon, et puis l'affaire repart, tout recommence, tout redémarre. L'affaire redevient neuve avec le témoignage de Melick. On entre dans un acte inattendu. Melick avoue. Comment Tapie va réagir? Comment va-t-il adapter sa défense? Bon, là, on se rend compte à partir du moment où Melick avoue qu'il y a quand même un effondrement.
Alors, donc il y a l'affaire judiciaire, il y a ce rebondissement, il y a son côté comme ça, un peu feuilleton. Et puis il y a le football quand même, parce que ça touche le foot. Alors maintenant, il faut imaginer tous ceux qui jouent au football de façon amateur, pour qui c'est quelque chose de très important. Et on va écouter ensemble un reportage qui dure 5 minutes. Notre reporter Gaylor Van de Wimersch est allé à Valenciennes. Alors Valenciennes, le club d'aujourd'hui. Enfin, il y est allé, pour être précis, il y a 2 ans. Hein, c'était le 2 septembre 2014. Et on va entendre les séquelles de cette affaire, les traces que ça a pu laisser dans l'esprit de footballeur qui joue au ballon et qui achète personne, quoi.
Hein, oui.
On se retrouve tout à l'heure.
Là, nous allons au stade du Hainaut, anciennement au stade d'Angesser.
Alors vous êtes supporter du VAFC de Valenciennes, de l'équipe de foot.
Voilà, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ce stade a été rasé. Je vais vous emmener devant ce qui reste.
Il était où, là?
Il était là. Il était là.
C'est une friche, vous dites.
Nous voici sur l'ancien stade d'Angesser.
Là où eut lieu ce match, le 20 mai 1993.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Moi, j'étais dans le stade. Hein. Le stade est archi plein. Moi, je me souviens que à la mi-temps du match, les dirigeants sont sortis, l'arbitre allait donner le coup d'envoi, et les dirigeants sont allés rechercher l'arbitre pour dénoncer, parce que Valenciennes avait des choses à dénoncer. Le match a pris un peu de retard. Personne dans le stade pouvait savoir ce qui se tramait, quoi. Là, on se trouve devant l'ancienne descente. Les joueurs descendaient là, ils allaient dans leur vestiaire, et le tunnel après continuait pour aller sur le terrain. Il y a une image qui me restera toujours. Bernard Tapie remonte dans la tribune d'honneur, croise Jean-Louis Borloo. Il s'arrête, il se parle, mais on voit que c'est virulent.
Jean-Louis Borloo, l'ancien avocat de Bernard Tapie d'ailleurs, les deux hommes se connaissent bien.
Les deux hommes se connaissent très très bien. Donc je pense que Borloo a dû lui dire: oui, qu'est-ce que t'as encore fait, tu te rends pas compte de me faire ça à moi? Il n'y a pas d'éclat de voix, mais on voit bien que c'est virulent. Marseille vient ici avec deux craintes. De perdre le match et d'être en plein doute avant la finale de la Ligue des Champions. Voilà les raisons qui ont pu pousser les dirigeants marseillais à soudoyer des joueurs valenciennois. Alors c'est vrai. On a des valenciennois qui ont été soudoyés. Mais si on n'était pas venu les chercher, ils auraient fait leur match comme ils auraient dû le faire.
Vous, en tant que supporter de Valenciennes, quand survient l'affaire, le scandale, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là?
Qu'un gros club soudoie un plus petit club, oui, ça m'a dégoûté du football. Et en plus, des mercenaires comme Boruchaga, comme Robert, qui n'avaient pas besoin de cet argent pour se mettre à l'abri, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, ces gars-là, ils sont venus chercher qu'une seule chose, le pognon. Avec l'argent, on peut pas tout acheter. On n'a pas le droit, on n'a même pas le droit d'essayer.
Attention, Boxic, et but! Voilà l'Olympique de Marseille qui ouvre le score alors que Michel Pajot est parti protester auprès de Monsieur Véniel. Et 1-0 pour l'Olympique de Marseille, on va le revoir.
Dominique Corroyer, bonjour.
Bonjour.
On se trouve dans un bar qui s'appelle le Penalty, bar de supporters de Valenciennes, et on est en face de l'ancienne entrée du stade Ningesser. Et vous êtes un ancien joueur de foot de l'équipe de Valenciennes.
Ouais, cette entrée, elle est symbolique pour moi, parce que je venais quand j'étais tout gamin, donc je rentrais justement par ces guichets. Maintenant, c'est une friche. J'en parle avec beaucoup d'émotion et j'ai pas encore fait le deuil total de ce stade.
Et vous étiez présent le jour du match VAOM.
Ouais, pas un très bon souvenir. Alors personnellement, parce que malheureusement j'ai pas pu jouer ce match, j'étais sur le banc de touche et je suis pas rentré parce que Marseille c'était quand même le club phare. Donc les esprits étaient peut-être un petit peu tendus des deux côtés. Nous personnellement, à la mi-temps on savait rien. On a appris ça après le match. On nous dit qu'effectivement il y aurait eu des sommes d'argent proposées la veille à l'hôtel, dans une chambre. Enfin, c'était un peu rocambolesque. Donc, qui dit la vérité? Des partenaires avec qui on avait passé une saison complète, des heures d'entraînement, des repas ensemble. Ça a mis en péril un club, des salariés, les vrais supporters, les vrais amoureux du club. Et on a vécu derrière quand même une descente aux enfers. On a reçu des cercueils, on a reçu des menaces de mort, enfin, avec le nom de VA dessus ou avec le nom de Glassman.
Parce que vous étiez le club Balance, et le club aussi qui avait fait tomber le grand OM de tapis de son piédestal.
Voilà. Et à partir de là, beaucoup de gens du foot en ont voulu au club de Valenciennes. Ça nous a pénalisé pendant une dizaine d'années, il faut le reconnaître. Maintenant, il faut passer à autre chose.
Il faut passer à autre chose, mais c'est pas forcément facile, à Valenciennes.
Non, mais Valenciennes... passe à autre chose, mais l'histoire ne trépasse pas. La preuve, c'est qu'ils ont beau vouloir passer à autre chose, c'est maintenant inscrit dans la mémoire la plus puissante, qui est la mémoire affective, émotive.
Quel est votre souvenir de la personnalité d'Éric de Montgolfier, donc le procureur, que nous avions invité d'ailleurs il y a deux ans? Bon, un type intelligent.
Un sacré personnage.
Ah, vraiment, hein.
Intelligent, cultivé. Je me rappelle avoir un jour, pendant le procès, employé un mot que j'ai oublié, qui était un mot un peu savant, et il m'avait repris en me disant que c'était pas dans le dictionnaire. C'était un vendredi, et on s'était donné rendez-vous lundi pour faire des recherches. Et je dois reconnaître que fort honnêtement, lundi, il m'a dit effectivement le mot y est. Voilà la qualité de l'homme, s'exprimant dans un français impeccable, ce qui faisait du reste que Bernard Tapie croyait qu'il parlait argot, raide comme la justice d'autrefois, mais en même temps capable d'infiniment de compassion et de compréhension. Il ne faudrait pas dépeindre Éric de Montgolfier comme une guillotine. Et là encore, je m'excuse de reprendre cette expression, mais... il ne faut jamais essayer de prendre les juges pour des imbéciles. Et juge comme chacun d'entre nous, quand on le prend de haut, il le prend mal, voilà. Et je crois que Éric de Montgolfier s'est mobilisé. Moi, je me rappelle, je le revois. Ah, c'était une scène extraordinaire, une scène de théâtre. Il y avait Bernard Tapie qui répondait à une forêt de micros et de caméras. Et derrière lui, comme la statue du commandeur, il y avait Éric de Montgolfier qui écoutait les mensonges que Tapie racontait. Et il est intervenu.
Il a dit quoi?
Il a dit non, mais ça, ce n'est pas vrai. Bon, il faut oser.
Ah oui.
Mais Éric de Montgolfier avait aussi compris que l'utilisation des médias était dans le procès une chose importante. Et il a su s'en servir.
Alors, on peut le comprendre. Dans une histoire, on retrouve de l'argent caché dans un jardin.
Ah oui.
On va pas s'étonner que les médias soient intéressés aussi, soient oui. très
présents. Ah non, ça, on peut pas reprocher.
Alors, cette histoire d'argent dans le jardin,
oui.
quand même.
Oui, on va pas reprocher aux médias de s'intéresser à une affaire comme celle-là.
Ouais. Bon. Il y a comme tous les ingrédients.
Cela étant dit, c'est quand même, l'affaire VAOM, si on a un peu de temps, elle préfigure quand même la scénarisation de l'information. C'est-à-dire qu'on va, à partir de l'affaire VAOM, bon, ça commence avec l'affaire Dominici, mais là, c'est compliqué à raconter tout ça. Mmh. Mais à partir de cette affaire, l'information est scénarisée, quoi. Il faut qu'elle raconte une histoire avec des suspens, avec des hésitations.
Des personnages.
Avec des personnages, des rebondissements. Et en même temps, quelque part, comme disait l'autre, ça a un peu tué la vraie information aussi. Hein. Alors, l'argent dans le jardin. Mais c'est l'antifable du laboureur. C'est l'antifable du laboureur. Travaillez pas, ne prenez pas de la peine.
Et quand vous vous êtes retrouvé, vous, dans cette histoire en tant qu'avocat, vous avez fait votre métier d'avocat, mais vous aviez comme ça le sentiment, vous aviez réussi à mesurer la réalité, vous étiez dans une histoire de rocambolesque. Tiens, je cherchais le mot.
Oui.
Rocambolesque.
Oui.
Quand on est avocat, qu'on plonge là-dedans, oui. Il y a une certaine forme de plaisir, d'excitation.
Oh.
Est-ce qu'il y a ça?
D'abord, on veut gagner. Enfin, je parle pour moi.
Ouais.
C'est, le vrai avocat, c'est un combattant qui veut gagner. Du reste, il faut souhaiter aux gens qu'on défend d'avoir des avocats qui veulent gagner.
Certes.
Et puis, c'est un voyageur de la vie, un voyageur du romanesque. Moi, c'est le plus beau voyage en train de ma carrière. Bon, il y en a eu d'autres, mais ce voyage dans l'affaire VAOM, ça a été extraordinaire, quoi. Voyage dans les psychologies, voyage dans les mensonges, voyage dans les peurs, voyage dans les rebondissements, voyage dans le monde du foot, voyage extraordinaire. C'est ça le procès. Le bonheur du grand avocat, j'entends par là l'avocat qui a la chance de plaider des causes importantes, c'est qu'il voyage dans toutes les vies, quoi. Il est le clodo, il est le milliardaire, il est le menteur, il est l'honnête homme, il est le tricheur, tout en restant lui-même.
Ah, pourquoi vous l'avez quitté ce milieu pour aller en politique alors? Puisque vous l'aimez tant, et vous en parlez bien.
C'est une putain de bonne question.
Alors, comment vous vous sentez?
Ben, je me sens bien parce que je suis toujours bien à l'endroit où je suis. Parce que je crois que c'est une espèce de fatalisme existentiel. Hein. On doit, à la place où l'on est, faire ce que l'on doit faire. Et, dans la mesure du possible, faire courageusement et bien.
Et pourtant, vous avez connu, vous, une vie politique qui était adossée à des vrais choix politiques, avec une ligne de démarcation. Aujourd'hui, les gens ont perdu leur repère, c'est compliqué.
Mais moi, je suis resté fidèle à mes idées. Hein. Je veux dire, du reste, beaucoup de journalistes ont essayé de me prendre en défaut. J'ai toujours été contre la peine de mort, je reste contre la peine de mort. J'avais toujours été contre le délit de solidarité, je l'ai abrogé. Bon, je veux dire, le drame, c'est qu'on ne cherche pas à lire dans le réel ce qu'est l'individu. Hein. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que le monde politique est fini.
C'est-à-dire
c'est devenu un monde médiatique, de construction de phrases télégraphiques.
Bah vous en faites aussi, vous.
Oui,
vous
mais êtes... je suis complètement... Attendez, mais moi, quand je critique, je me place en première ligne.
Il hein. y a des gens qui vous invitent sur des plateaux parce que vous allez faire spectacle.
Oui, mais si je peux vous parler comme ça, c'est parce que je suis un peu spectateur de moi-même aussi. Bon, l'introspection n'est pas interdite.
Bien, en tout cas, merci Gilles Mercolard d'être venu nous parler
merci
de cette
à
affaire OMVA, d'avoir remué vos souvenirs qui sont depuis, je suis très mauvais en calcul, 93, 2013, 20 et quelques années.
Mais quand on est jeune, c'est pour la vie, donc on compte pas.
Voilà, merci, au revoir.